Dans le cadre de la série de portraits réalisée par la radio Oui 98,5 FM, aujourd'hui, nous nous rendons chez Frédéric Dardenne, fondateur et dirigeant de l'épicerie fine en ligne qui porte son nom. Ce reportage est le troisième d'une série qui a pour but de mettre en valeur des initiatives ou des entreprises des membres de la communauté francophone. Alors, sans plus tarder, nous rejoignons Frédéric qui va nous en apprendre davantage sur son parcours et son activité. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Sébastien, ça va ?
Écoute, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Et donc, avant de nous parler de ton activité, alors j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ton parcours, d'où tu viens et comment as-tu eu l'idée de te lancer dans ce commerce ?
Ben, c'est assez simple. Moi, je viens d'une petite région rurale en Belgique, et puis où il y avait beaucoup de fermes, d'agriculture, des petites connexions, les gens qui se connaissaient depuis longtemps. Bon, moi, j'ai vécu dans ce village-là jusqu'à mes 35 ans. Et puis, l'agriculture ayant fortement changé, le milieu naturel aussi, on a décidé avec mon épouse de partir vers le Canada. Là, c'était, ben maintenant, ça va faire 15 ans, 15 années. Donc, on est parti une année sur le Québec. Et puis là, on est arrivé dans les Laurentides, une très belle région, boisée, etc. Mais on recherchait surtout quelque chose, enfin moi personnellement, quelque chose où tu pouvais avoir une vue différente de l'environnement. Et puis alors, on s'est renseigné sur la Nouvelle-Écosse. Là, tu avais des forêts, etc. Les forêts, tu avais accès à la mer, tu avais accès à Fundy. Donc, c'est tous des environnements différents qui se proposaient à nous. Et puis, on est venu un jour. Et puis, voilà, on est resté là. Ça fait 14 ans qu'on est ici. Donc, je suis toujours resté connecté, très attaché à tout ce qui était aspect naturel. Donc, mon travail sur les produits fins, le jardinage, la permaculture, l'écotourisme, la recherche de tous les aliments sauvages, etc. Donc, tout ça a pris jour en Nouvelle-Écosse il y a 14-15 ans et on a toujours diversifié ça depuis jusqu'à ce jour.
Alors, comme je l'ai dit en introduction, tu proposes de l'alimentation en ligne notamment. Alors, peux-tu nous dire ce qu'on trouve sur ton site et d'où proviennent tous ces produits ?
En fait, on a sur notre site internet, en termes de produits faits, on n'a vraiment qu'une toute petite sélection de produits. Je pense qu'il doit y en avoir 20-25. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne suis pas tellement habile dans le e-commerce. Hein, c'était pas du tout mon créneau. Donc, on a juste une petite vitrine là de produits pour montrer aux gens qui viennent sur le site, ben, tiens, il y a possibilité d'avoir peut-être du fromage, etc. Donc, les gens nous contactent et puis après ça, ils ont accès à tout un fichier où il y a plus ou moins 600 à 800 gammes de produits différents, fromage, charcuterie, produits naturels, produits sauvages, champignons, les algues, etc. Donc, il suffit parfois de juste nous connecter, nous envoyer un petit mail, un petit appel téléphonique. Et puis alors là, on vous envoie un code où vous pourrez avoir accès à toute la gamme de produits, toute la liste de produits. Pour la gamme de produits, en fait, initialement, elle était basée sur uniquement le produit naturel, donc produits de Nouvelle-Écosse, les algues, les baies, les végétaux du bord de mer, les lichens, les champignons, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on a développé cette activité-là, beaucoup de chefs nous demandaient, d'hôtels-restaurants, surtout sur Halifax, nous demandaient, tiens, Fred, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir tel produit fin, tel fromage, etc. Donc, on a élargi notre gamme, mais toujours en gardant en esprit de valoriser des produits de producteurs vraiment typiques d'une région, typiques d'un terroir, qui font du produit à petite échelle, mais en très bonne qualité. Donc, toute notre gamme de produits s'est diversifiée ainsi. Donc, on est passé de plus ou moins 200 produits sauvages à plus ou moins 800 produits fins actuellement.
Alors, c'est très intéressant ce que tu dis là. Et donc, sur ton site, tu mets bien en valeur le respect de l'environnement, la promotion d'une agriculture raisonnée, naturelle et bienveillante. Alors, pourquoi avoir fait le choix de cette option ? Alors qu'on sait très bien que c'est par facilité ou par commodité, les gens se lancent sur une agriculture conventionnelle qui leur permet d'assurer peut-être des revenus plus facilement.
Oui, en fait, c'est intéressant ce que tu dis là, la dernière phrase, c'est des revenus plus facilement, c'est-à-dire que c'est un raisonnement, ça qui est venu juste avant que je ne quitte la Belgique. Moi, écoute, on pouvait se balader dans la nature, c'est à peu près comme la Nouvelle-Écosse maintenant, hein. On se baladait, on avait des champs de fleurs, on avait des odeurs partout, on avait les agriculteurs qui faisaient des petits ballots de foin, de paille. tu avais des connexions entre tous les gens du village parce que les agriculteurs avaient plus ou moins, il y avait plus ou moins 30 agriculteurs pour une densité de population de 400 à 500 personnes. Donc, c'était quand même relativement énorme. Et chaque agriculteur avait besoin d'une petite main-d'œuvre, tu vois. Donc, si tu veux, toute cette connexion-là de personnes qui s'entraidaient dans le village, c'était quelque chose de super. Puis, il arrive un concept où on a dit aux agriculteurs, bah, écoutez, il serait temps de tailler toutes vos haies, il serait temps de voir l'agriculture différemment pour produire plus facilement, en plus grande quantité. Donc, il y a une vingtaine d'années, tout le monde est rentré là-dedans en se disant on va avoir moins de travail mais plus d'argent. C'était une catastrophe monumentale parce que moi j'étais charpentier, donc je montais des projets pour des entreprises agricoles en France, Belgique, Luxembourg, etc. Et puis on est passé d'une qualité de vie au niveau des agriculteurs qui était vraiment superbe il y a 25-30 ans, et toute cette qualité de vie-là et de travail et de produit, donc en finalité, a commencé à régresser. Et puis maintenant, ben, on se retrouve dans un système où les agriculteurs ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins avec d'énormes quantités de travail. Ils sont endettés, ils doivent investir dans des machines, etc. Donc, on arrive maintenant à un bout de cycle qui est comme ça. Et pourquoi j'avais initialement l'idée de bouger de Belgique, c'est justement parce que je ne ressentais plus ce côté familial, ce côté de terroir, etc. Tout ça avait disparu, les fruitiers dans les vergers, il n'y avait plus de fruitiers, il n'y a plus de biodiversité. Là. Également, quand tu perds ta flore, tu perds ta faune. Donc, tout ce qui est petit gibier, etc., tout était révolutionné. On n'entendait plus de faisans crier le matin, on ne voyait plus de lapins sauvages, etc. Donc, tout l'écosystème était bouleversé rien que parce qu'on a voulu passer à une agriculture intensive. Donc, moi, j'ai toujours regardé l'esprit que si tu veux travailler des produits de qualité, il faut que tu les travailles d'une manière typique, de terroir à la main. Tu n'as pas besoin d'avoir des machines, tu n'as pas besoin d'avoir de pesticides, tu n'as pas besoin d'avoir toutes sortes de choses comme ça. Donc, je suis toujours resté dans ce concept-là. Et puis, ce qui me plaît de dire, c'est que y a des agriculteurs maintenant qui ont des investissements énormes, qui doivent faire attention à leur sol, par exemple, chaque année amender leur sol, mettre des engrais, etc., mettre du pesticide, etc., etc. Donc, ils appauvrissent leur qualité de sol. D'année en année, ils sont de plus en plus dépendants de toute cette, de tous ces pesticides, engrais, etc. Donc, c'est des gens qui sont bloqués dans un système. Et puis, moi, je suis un petit peu en parallèle de tout ça. Je suis complètement l'opposé. Je veux pas avoir quelque chose qui soit intensif, qui soit contraignant, de me lever le matin, de dire, tiens, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse ça. Donc, c'est vraiment une petite culture familiale, tu dirais. Moi, j'ai quelques permacultures comme ça, où on travaille ça de manière ultra simple. Il n'y a pas de travail forcé. On produit très peu, mais la qualité du produit est vraiment exceptionnelle. Et puis, alors, tu as du rendement. C'est-à-dire que si tu prenais la comparaison entre le temps que tu passes dans ta permaculture et le gain que tu as, il est peut-être 10 fois plus conséquent que quelqu'un qui fait une agriculture intensive.
Alors, ce que tu dis là est vraiment très intéressant. Moi qui, en arrivant ici, découvre un peu l'environnement, la nature, moi, je suis sensible à ce que tu dis. Et est-ce que tu sens que la clientèle, justement, est demandeuse d'un retour à une alimentation plus saine et moins industrielle? Est-ce qu'il y a cette demande-là de la clientèle?
En fait, oui, mais tu vois, le gros bémol là-dedans, c'est que si tu pars sur des principes de culture comme moi je fais, ça demande beaucoup de connaissances de base, tu vois. C'est beaucoup la qualité du sol qu'il faut travailler, etc. Donc, il y a des personnes qui nous achètent des items pour commencer les jardins, des garden beds, etc., des composteurs, etc. Donc, on leur inculque comment utiliser le composteur, les garden beds, etc., pour avoir un sol qui est riche et qui restera riche avec juste des petits apports chaque année. Comme par exemple les feuilles qui traînent sur votre verger, ben laissez-les, ça se composte, etc. Donc, c'est de comprendre le sol, de travailler de cette façon-là. Et pour en revenir à la qualité du produit, oui, certainement, les gens sont adeptes de produits naturels, mais on a encore trop tendance à manger beau et pas bon. Moi, je préfère manger bon, mais pas beau. C'est-à-dire que mes packagings, tu verras jamais quelque chose de très sophistiqué qui va taper à l'œil. Moi, ça m'intéresse pas. Parce que c'est, tu vois, tous ces concepts-là de plastique, etc., ça demande beaucoup de recherche, ça demande beaucoup de ceci, du branding, etc. Moi, je suis complètement l'opposé de ça. Je préfère que ce qui est dans un petit paquet, le paquet soit laid, mais que le contenu soit très beau. Et je vais prendre, par exemple, un simple parallélisme entre deux plantes, une cultivée, une sauvage, qu'on appelle l'épinard de mer. Donc, dans le commerce, tu vas retrouver l'épinard traditionnel. Au milieu sauvage, tu vas avoir l'épinard de mer. Donc, c'est un épinard que tu vas trouver le long de l'océan. Il y en a des tonnes partout. Et puis, par expérience, hein, manger 500 grammes, 400 ou 500 grammes d'épinards du commerce et manger 20 à 25 grammes d'épinards de mer, tu te sens beaucoup plus satisfait au niveau de tes valeurs nutritives avec mon 20-25 grammes qu'avec le 400 grammes du magasin. Parce que tous ces fruits et légumes-là ont perdu beaucoup de qualité nutritive, tandis que ton petit produit naturel qui est 20 fois moins volumineux, donc qui fait 20 grammes. Mais voilà, si jamais tu parles avec le commun des mortels, avec n'importe quelle personne, tu vas leur proposer un épinard de 20 grammes et un paquet d'épinards de 400 grammes pour le même prix, ben c'est évident que tout le monde va se tourner vers le 400 grammes. Donc, c'est beaucoup de connaissances à avoir là derrière, d'anticiper ces achats, de connaître plus en profondeur les produits, parce que ça n'a pas de sens de manger 400 grammes d'épinards qui va te donner la même valeur nutritive que 20 grammes.
Alors, ce que tu dis là, c'est très intéressant parce qu'on va, enfin, tu fais le lien avec la question suivante de manière fort, fort habile. Tu organises, au-delà de l'alimentation, tu organises des tours de découverte justement pour aider et contribuer à cette pédagogie-là. Donc, explique-nous comment tu t'organises pour accueillir des familles et justement leur faire appréhender cet environnement qui nous entoure.
Eh ben oui, donc voilà, l'écotourisme à la base, moi je faisais ça pour une, deux, trois personnes, des familles, en semaine, en week-end, etc. Puis l'année passée, on a commencé un autre concept avec une partenaire de Halifax, donc qui s'occupe de toute la registration de personnes. Donc on reçoit via Facebook, Terroir and Wild Ecotours. C'est un Facebook spécialisé sur nos écotours. Donc elle promotionne tous les événements qui se font généralement le dimanche. Et puis, on en a également en semaine des événements collaboratifs comme avec Benjamin Bridge, un qui s'en vient au mois de mai, le 5 mai, je pense, ou le 7 mai. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent une fois ces écotours-là. Donc, on accueille plus ou moins 15, 20, 25 personnes. Ça se passe comment? En fait, durant 1h30 à 2h, on fait une petite balade en forêt, le long de la mer, etc. On essaye de choisir deux biotopes totalement différents. Ça va être le long de la mer et la forêt. Ou quand c'est les champignons, uniquement la forêt. Alors, on fait un petit tour durant 2 heures. On explore le sol, le terroir, l'identification de tous les produits comestibles. On passe pas son temps à parler du non comestible ou toxique. Parce qu'après, ça donne de la confusion dans la tête des gens. On s'occupe vraiment sur tout ce qui est bon, que les gens peuvent trouver et qu'ils peuvent consommer. Donc, on fait ça pendant plus ou moins 2 heures. Ensuite de ça, on se rend à une place où il y a deux chefs de ville qui viennent et qui concoctent quelques recettes et quelques plats pour les invités. Donc, ça, c'est un concept qui était vraiment super parce qu'on apprend justement aux personnes à identifier des produits comestibles. À avoir des réflexions, des commentaires sur l'environnement, la qualité du sol, le bois, etc. Donc, c'est vrai, ça va au-delà de l'aspect identification de certains produits naturels. On mise beaucoup sur l'écosystème, la compréhension de toutes les plantes, les champignons, etc., la faune, la flore. Et puis alors, en finale, ben, les gens peuvent se rendre compte de quelle manière ils peuvent incorporer ces produits sauvages-là dans la cuisine à travers quelques recettes sur site.
C'est excellent, c'est très intéressant. Alors, moi, tu m'as convaincu avec le petit discours qu'on vient d'avoir. Alors, pour conclure, dis-nous comment se fournir chez toi, comment participer à ces événements et dans quel périmètre on peut espérer pouvoir avoir de tes produits.
En fait, les produits actuellement, donc, il suffit de m'envoyer un petit email là, via le site web. Et puis alors, vous aurez un lien sur toute la gamme de produits que nous distribuons, donc que ce soit les fromages européens, fromages québécois, les charcuteries, les viandes, etc. Tous les produits spécialités, produits naturels. Et alors, en ce qui concerne les écotours, c'est identiquement la même chose via le site web freddardenne.com. Ou alors via la page Facebook dédiée à nos écotours de groupe qui est, excuse-moi, je dois me rappeler, Terroir and Wild Écotours. Donc là, il suffit d'envoyer un petit message Facebook et ma partenaire communiquera avec vous là, dans les plus brefs délais. Et alors, en ce qui concerne le rayon d'approvisionnement, pour tout ce qui est produits fins, on distribue actuellement uniquement dans la région HRM. Halifax. Et puis, pour tout ce qui est écotour, actuellement, nous les réalisons dans toute la Nouvelle-Écosse et prochainement vers le Nouveau-Brunswick et le Québec également.
Excellent. Eh bien, merci Fred pour toutes ces explications. Tu peux être sûr que j'y serai prochainement.
Avec plaisir.
Et donc, je rappelle que tu es le fondateur et le dirigeant de l'épicerie Fred Dardenne. Et donc, on essaiera de se rencontrer rapidement pour voir quelles sont tes prochaines activités.
Ok, c'est gentil, c'est super. Bonne journée à vous.
Merci.